Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDWA 107.5. Alors, c'est le 29e épisode de l'Étoile Polaire. Dans le studio aujourd'hui, c'est Fred qui vous parle et il y a Axel et Pierrick.
Salut.
Bonjour tout le monde.
On espère que vous allez bien, on est content de vous retrouver à l'antenne. Alors, le sommaire de ce 29e épisode de l'Étoile Solaire. On va commencer par des petits points d'actualité.
Polaire.
Ouais. J'ai dit quoi ?
L'étoile solaire.
Aïe, aïe, aïe. Ça va plus.
C'est pas mal aussi.
Donc, des petits points d'actualité. Après, ce sera Axel, le ciel ce soir, où tu nous feras aussi un focus sur la constellation de la Grande Ourse.
Tout à fait.
Ensuite, moi, je continuerai la planétologie. On avait commencé dans l'émission précédente, deux émissions, parce que la dernière, j'étais pas là, à discuter de la formation des planètes. Et donc, on avait commencé par la formation des étoiles. Là, on va parler des disques d'accrétion. Et puis, après la pause musicale, ce sera toi, Pierrick, qui continuera à nous parler de Jupiter et cette fois-ci de ses satellites.
C'est ça.
Voilà, tout est dit. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, des petites actualités, là, un peu comme ouais, elles viennent.
Petite brève de l'espace.
Déjà, l'actualité, c'est que c'est le solstice d'hiver, quand même. Le 21 décembre. Ouais. Donc,
les jours vont grandir.
Les jours vont recommencer à grandir. Ouais, y a une petite phase, là, autour du 21 où ça stagne. Ouais. Et ensuite, ça repart. Donc, c'est le jour le plus court de l'année, la nuit la plus longue. Donc, ça correspond à une position particulière, en fait, de la Terre sur son orbite. Et en particulier, une position d'alignement entre l'axe de rotation de la Terre et sa trajectoire, en fait. Elle est perpendiculaire à sa trajectoire, en fait, dans un plan perpendiculaire à celui de sa trajectoire. Du coup, ça donne... je passe les détails, là, il faudrait faire des dessins. Mais en tout cas, ça correspond à ça. C'est un événement astronomique, une position particulière de l'orbite de la Terre, tout comme le solstice d'été et les deux équinoxes. Voilà. Bon, donc on le mentionne. Ensuite, il y avait quoi ? Il y avait une histoire de comète.
Oui, il y a une comète. Alors, on arrive en retard. Il faudrait qu'on fasse des émissions toutes les semaines pour avoir pu en parler. Mais une comète qui a été surnommée la comète Léonard, et qui s'est baladée dans le ciel pendant deux semaines, là, qui était d'abord observable au télescope, puis aux jumelles, et pendant trois petites nuits, à l'œil nu. Au moment où elle passait le plus proche de la Terre, en fait, elle était suffisamment brillante pour être distinguable à l'œil nu. Et sauf que ces trois jours-là où elle était visible à l'œil nu, dans notre beau pays d'Iwa, c'était couvert, très nuageux, et donc je n'ai pas pu l'observer.
C'était le matin aussi.
C'était ça aussi. C'était aux alentours de 4h30 du matin. Et maintenant, elle est dans le ciel au moment où le soleil se lève, donc elle n'est plus du tout observable.
Voilà, donc vous pourrez nous remercier de vous faire part de cette comète que vous ne pouvez pas voir.
Non, mais bon, ce n'est pas tout. Tout le temps qu'il y a des comètes qui arrivent à être visibles à l'œil nu, qui dépassent la magnitude 6.
C'est vrai. Voilà. Alors voilà, et il y a un autre non-événement.
Oui, qu'on avait annoncé lors de la dernière émission avec Pierrick, c'était le lancement du très attendu James Webb Space Telescope, qui devait avoir lieu, je crois, le 11 décembre, qui a été reporté de quelques jours, puis re-reporté de quelques jours. Ça devait être le 22, puis maintenant c'est le 24, ça a été annoncé hier, je crois. Voilà, un télescope pour Noël. Il est reporté depuis des années maintenant. Ce qui est bien, c'est que les reports sont de plus en plus courts maintenant.
On approche du lancement. Ouais.
En même temps, il coûte 10 milliards. Donc,
toutes les précautions sont bonnes à prendre. Ouais. Il sera lancé depuis Kourou par une Ariane 5.
T'as pas intérêt à foirer quoi que ce soit.
Ouais, c'est sûr.
Non, là, il doit y avoir une petite pression sur le lancement, c'est sûr. Ok, alors on va passer au ciel ce soir. Axel, nous t'écoutons.
Oui, alors le ciel ce soir, le ciel, au niveau des planètes, on en parlait juste avant de commencer l'émission, on a toujours un bel alignement entre Jupiter et Saturne et Vénus, de gauche à droite. Vénus qui se couche de plus en plus tôt, d'ailleurs les planètes se couchent de plus en plus tôt, au mois de janvier elles seront sous l'horizon. Donc en termes d'observation, comme on se disait entre nous, comme elles sont très basses sur l'horizon, l'image est assez dégradée par les couches de l'atmosphère.
Oui, ça turbule pas mal. On a du mal à grossir, on a du mal à avoir des détails. En fait, ce n'est pas la configuration la plus favorable pour observer en ce moment les planètes.
En tout cas, pas aux instruments. À l'avenir, c'est sympa.
C'est un peu frustrant parce qu'elles sont là vraiment dans le ciel dès que le soir tombe. Hein.
Ouais.
Mais au télescope, c'est pas génial.
Ouais.
En tout cas, quand il fait sec, là, comme ces derniers jours, et le temps est bien dégagé, c'est beau, crépuscule, 35 minutes pour regarder ça, c'est un petit moment sympa.
Et un peu plus tard, de voir Orion aussi, qui est vraiment quadrille une partie du ciel, là, c'est sympa. Et donc, un petit focus ce soir sur ce matin, sur la grande ours, de son nom scientifique Ursa Major. Alors, la grande ours, tout le monde la connaît. Enfin, tout le monde croit la connaître, en tout cas. Mais ce que tout le monde connaît, c'est la casserole, la grande casserole, qui est une partie de la grande ours. Pour ceux qui se sont toujours demandé le rapport entre une ours et une casserole. Une constellation assez conséquente en taille. Je crois que c'est la troisième plus grande constellation du ciel. Ce qui fait que... Enfin, du ciel boréal, en tout cas. Elle contient beaucoup d'objets, notamment 7 objets de Messier. Une cinquantaine de galaxies, dont j'en parlerai un peu plus tard, les deux objets que je vous propose d'observer dans la Grande Ourse. Et comme ce sont des étoiles très, très brillantes, une forme très reconnaissable, évidemment, toutes les civilisations qui ont vécu sur Terre l'ont observée, l'ont décrite, s'en sont servies.
Et alors, tu disais, oui, une casserole aussi, puisque ça c'est un objet récent, la casserole,
La casserole, c'est le nom que nous, on utilise aujourd'hui, mais elle a eu d'autres noms. La forme, je vais vous apprendre un mot, l'astérisme, c'est donc une formation d'étoiles reconnaissables. Une constellation peut être un astérisme, mais quelques petites étoiles aussi peuvent être un astérisme. Et donc l'astérisme des 7 étoiles qu'on appelle la casserole a été reconnu de tout temps. C'est une constellation dite circumpolaire qui est observable toute l'année puisqu'elle tourne autour de l'étoile polaire. Donc à partir de quand on est au-dessus des 41 degrés nord, on peut la voir toute l'année. 41 degrés nord, c'est à peu près la latitude de Rome, pour donner une idée. Et si on est un peu plus bas, un peu plus près de l'équateur, à l'automne, elle disparaît sous l'horizon. D'ailleurs, à notre latitude, la totalité de la Grande Ourse, il y a une partie de la Grande Ourse qui passe sous l'horizon, et même de la casserole un peu. On en voit toujours la queue, elle remonte assez vite, même au cours de la nuit. Mais si on prend l'ensemble de la constellation, il y a une partie qui est cachée. Le relief aussi fait que... Voilà. Et alors, elle a quelque chose d'assez particulier, cette constellation. Alors, cet astérisme, plutôt. Vous savez que, ou peut-être vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre, que les constellations sont des formes que les humains ont imaginées, ont tracées dans le ciel, mais que les étoiles, les unes par rapport aux autres, de chaque constellation n'ont rien à voir. Elles peuvent être très distantes les unes des autres. Et on a représenté ça comme un plan, mais voilà, quand on prend en 3D, c'est beaucoup plus complexe. Eh bien, ce n'est pas vrai pour les 7 étoiles de la Grande Ourse, en tout cas pour 5 des 7 étoiles de la casserole qui sont... En moyenne, tout à 80 années-lumière, soit de 78 à 82 années-lumière. On parle du courant d'étoiles de la Grande Ourse. En fait, on pense que c'est un amas ouvert, comme les Pléiades, des étoiles qui se sont créées ensemble dans un même nuage de gaz, et qui ont commencé ensuite à se séparer, et qui forment aujourd'hui, depuis la Terre, cette forme. Mais qui sont à peu près au même endroit dans l'espace.
Elles sont liées entre elles ou pas du tout ? Il y a pas de...
Gravitationnellement, tu veux dire non. Non. Non, elles sont suffisamment loin quand
elles
même.
Elles sont loin quand même, ouais. Elles sont espacées les unes des autres.
Oui. Voilà, c'est vrai, sauf pour Doubé, c'est celle qui forme l'angle de la casserole à droite, en haut à droite, et le bout du manche, Alcaïde aussi. Voilà, les deux extrémités, elles sont plus loin, mais les 5 autres naviguent ensemble dans la galaxie.
Ça veut dire qu'elles ont la même taille à peu près ? C'est le même genre d'étoiles ?
C'est une bonne question, je ne me suis pas renseigné jusque-là, mais c'est bien possible. Oui, souvent dans les amas d'étoiles, elles se créent un peu toutes...
Au même moment.
Toutes au même moment, de la même composition, de la même forme, du même type spectral. Une autre caractéristique sympa de cette casserole, c'est qu'on compte 7 étoiles. Mais vous savez peut-être que l'angle de la queue de la casserole, l'étoile Mizar, c'est une étoile double, Alcor et Mizar. Et avec une bonne vue, on peut distinguer qu'il y en a deux. D'ailleurs, on raconte que Genghis Khan se servait de ces deux étoiles pour y demander à ses soldats « Est-ce que tu vois une ou deux étoiles ?» Et ceux qui en voyaient deux pouvaient être archers. C'était un test d'acuité visuelle traditionnel. Et Alcor et Mizar, qui sont donc deux étoiles. Et en fait, ça va même plus loin, puisque Mizar, ça a été détecté que c'est une Mizar seule. J'exclus Alcor. Mizar est une étoile double, elle-même. Donc deux étoiles qui tournent autour. Et on a même détecté ensuite que chacune des deux étoiles a un compagnon aussi. Donc en fait, Mizar, c'est 4 étoiles. Alcor et Mizar, ça fait 5 étoiles. Doubé, c'est une étoile binaire aussi. Fekda aussi.
Tu veux dire qu'il y a 5 étoiles qui tournent autour de quoi
D'un centre baryonique. Ouais.
Ah oui, un centre qui n'est pas forcément une étoile.
Non.
Ok.
Fekda, une étoile double. Megrez est une étoile triple. Donc au final, quand vous regardez ces 7 étoiles, vous en regardez 15, sans le savoir.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étoiles doubles comme ça, non, dans le système solaire.
Oui, c'est même la majorité.
Dans la Voie lactée, ouais. Pardon. Il y a beaucoup
ça semble être la norme, plutôt, les systèmes binaires.
Ah ouais.
Voilà, pour finir, après je vais vous parler un peu de mythologie, mais une dernière petite caractéristique, là c'est plus comment dire, dans la nomenclature, on utilise en astronomie la désignation de Bayer, qui était un astronome qui a classé les étoiles de chaque constellation par magnitude, par brillance, la plus brillante étant alpha, puis bêta, et ainsi de suite, comme ça en avançant à l'alphabet grec, au moins c'est brillant. Et bien c'est pas vrai pour la Grande Ourse, où il est parti pour ces 7 étoiles de la casserole, il est juste parti de droite à gauche, et il a fait, donc Doubé qui est tout à droite, c'est alpha, même si c'est pas la plus brillante, puis bêta, et ainsi de suite, comme ça jusqu'au bout. Je sais pas, alors... Pourquoi il a fait ça, j'ai pas eu l'occasion de lui demander. Mais voilà, il a décidé comme ça.
Il a dit là, non, ce ne sera pas comme...
Oui, ce ne sera pas comme ailleurs. Et alors, pour parler un peu de mythologie, qu'est-ce qu'ont vu les hommes dans cette formation d'étoiles? Je vais commencer par les Grecs, pour changer. Les Grecs ont raconté que c'était Callisto, une nymphe, qui était l'amante de Zeus, et qui est aujourd'hui aussi une lune de Jupiter, tu m'en parleras ensuite.
Voilà.
Callisto, qui était une amante de Zeus, et qui a rendu jalouse Héra, la femme de Zeus, et qui a donc banni cette nymphe en la transformant en ours, ainsi que son fils, qui est devenu la petite ours, qui sont condamnés à ne jamais se reposer, et c'est pour ça qu'elles tournent autour de l'étoile polaire, et qu'elles vont jamais jusqu'au sol. Elles sont obligées de courir tout le temps, en fait. Peuvent jamais toucher le sol.
La punition
c'est ça.
Infinie.
Pour les Romains, c'est 7, ça se dit septem. Et eux, ils voyaient 7 bœufs. Et un bœuf, c'est triones. Et c'est ce qui nous a donné le mot septentrional. Quand on parle du nord, une partie septentrionale de la carte, la partie du nord, ça vient de la Grande Ourse. Au Royaume-Uni, on dit the plough. C'est une charrue. Souvent aussi... Tu me demandais, est-ce que, avant les casseroles, ça n'existait pas. Ça a souvent été aussi un chariot, une charrue, avec la queue de la casserole qui ferait de l'attelage, et le reste qui ferait le bac de la casserole qui ferait le siège, quoi. La charrette.
Ouais.
En Scandinavie, pareil, c'est le Karlvagen. C'était le wagon de Charles, peut-être de Charlemagne. C'est pas précisément qui était ce Karl. En Bretagne, elle a plusieurs noms. Chez les Bretons, on peut l'appeler Car Azur. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, pardon, mes amis bretons. Car Azur, le chariot du roi Arthur. Ou Car Cam, le chariot tordu. Ou Lostarar, le bout de la charrue. Ensuite, on a... Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'en grec, ours se dit Arctos. Et c'est ce qui nous a donné le nom arctique. Et à l'opposé, l'Antarctique, c'est le anti-arctique. Voilà, on a plein de noms usuels, des noms communs qui nous viennent spécifiquement de cette constellation, en fait, le septentrional, l'Arctique. Je continue, j'en ai encore quelques-uns. Chez les Arabes, eux, ils ont vu un cercueil suivi de ses trois filles, du défunt, les trois filles du défunt qui le pleurent et qui en même temps pourchassent l'assassin de leur père, qui n'est autre que la petite ours. C'est pour ça qu'elle tourne autour sans jamais le rappeler comme ça. En Inde, chez les hindous, c'est les sept sages. Pour les perses, c'était sept trônes. Alors peut-être de sept rois, j'ai pas trouvé plus. En Chine et au Japon, c'est la louche du Nord.
Donc, tu vois, une louche.
Une louche, c'est un peu plus vieux qu'une casserole.
Ouais, sûrement. Ouais, une casserole, ça doit exister depuis un moment. Enfin,
un récipient. Oui, bien sûr. Une cuillère, une louche.
Ouais.
Aux États-Unis, d'ailleurs, elle se dit. Alors pour les anglophones, ils disent aussi The Big Bear, mais ils ont aussi des petits surnoms. Et aux États-Unis, on dit le Big Dipper, c'est la grande cuillère.
Ah ouais.
Juste pour finir sur la Chine, cet astérisme, ils l'appellent Beidou, et qui veut dire la louche du Nord. Et ils ont aussi Nandu, qui est à l'opposé, qui est dans le Sagittaire, où ils ont trouvé une forme à peu près ressemblante aussi, et qui c'est donc la louche du Sud. Voilà, et puis les Amérindiens, eux, ils ont vu une ours aussi. Mais ils ont vu une ours seulement dans les quatre étoiles qui forment le bac de la casserole, et qui est poursuivie par trois chasseurs qui font la queue. Et pour finir, au Québec, ils appellent ça le grand chaudron.
Ah.
Pourquoi pas aussi ? Alors un chaudron avec une poignée, mais pourquoi pas ? Voilà, pour dire que c'est une constellation que tout le monde a observée et que tout le monde a interprétée différemment. Et donc je vais finir en proposant l'observation d'un objet dans cette grande ours, et même de deux objets pour le prix d'un. Si vous avez un oculaire qui le permet, on peut observer deux galaxies en même temps, qui sont M81 et M82, 82 qu'on appelle la galaxie du cigare. Et pour les trouver, c'est relativement simple, vous prenez l'alignement du haut du bac de la casserole, comme ça, et vous le poursuivez à l'opposé de la queue, tout droit. Et alors quand vous êtes au chercheur de votre télescope, vous avancez comme ça, vous tombez sur un astérisme, maintenant vous savez ce que ça veut dire, un astérisme de quatre étoiles qui forment un rectangle, et c'est juste au-dessus de ça, vous avez ces deux galaxies, M80 et M82, qui sont vraiment chouettes en photo, et à observer aussi. Il y en a une qui est vue par la tranche, une qui est vue de face. Voilà. Mais en tout cas, en termes de galaxies, comme je disais, il y en a 50, il y a de quoi en voir. Il y a M101 qui est très sympa aussi, au-dessus d'Alcaïde, au bout de la queue du coup. Galaxie spirale vue de face. J'ai pu voir d'ailleurs assez nettement les spirales dans mon télescope à Valdrome il y a 2 ans. Voilà, il y a de quoi faire dans la Grande Ourse.
Merci. C'est sûr que là, tu décris toutes les cultures qui ont identifié cet astérisme d'étoiles. Mais c'est clair que quand on observe le ciel, on voit cette forme, elle se détache bien parce que, en fait, autour d'elle, c'est assez noir.
Oui, c'est vrai.
Il n'y a pas grand-chose, en fait. D'ailleurs, le nord, ce n'est pas une région vers laquelle on observe le plus régulièrement en astronomie. Quoi. Enfin, tu parles des galaxies M101, tout ça. Et c'est sûr qu'il y a des choses à voir, mais ce n'est pas les régions les plus riches en étoiles qu'on puisse avoir. Quoi.
C'est vrai.
Donc, vraiment, cette grande ours, elle se détache. Quoi. C'est hyper clair. Ouais. Et c'est vrai que partout, elle a été identifiée comme quelque chose dans le ciel, un symbole dans le ciel. Quoi.
C'est ça. Oui, autant d'autres constellations dans des endroits un peu plus peuplés. Là, elles peuvent être différentes dans d'autres cultures, rattachées ensemble ou des choses comme ça. Avec celle-là, elle est vraiment définie.
Mais c'est pareil pour Cassiopée.
Oui, c'est vrai.
Parce que Cassiopée et la Grande Ourse, elles sont plus ou moins symétriques par rapport à l'étoile polaire.
Oui.
En tout cas, elles ont un peu. Enfin, tout ce que tu as décrit sur la Grande Ourse, c'est applicable aussi à à Cassiopée, quoi, en termes de tournée comme ça en permanence, d'être toujours là. Et c'est aussi une zone autour du W. Bon, il y a Persée en dessous, mais il est quand même très identifiable, quoi, W. C'est pareil.
D'ailleurs, elle sert aussi, la Grande Ourse, à trouver beaucoup d'autres constellations ou étoiles.
Ouais.
Beaucoup connaissent l'astuce pour trouver l'étoile polaire en partant de Merak, en faisant l'alignement Merak-Doubé, en reportant 5 fois dans le ciel.
Ouais.
Et on arrive sur l'étoile polaire.
Aussi en prolongeant
la queue,
on tombe sur l'épi dans la Vierge, après Arcturus. Ouais. Non, Arcturus dans Bouvier d'abord, puis ensuite l'épi de la Vierge. De là, on trouve le reste du ciel. Mais c'est vrai qu'on s'en sert pour s'orienter, en fait.
Ouais.
pour s'orienter dans, dans le ciel céleste. Ouais. Le ciel nocturne, pardon. Ok.
Voilà.
Eh ben, merci Axel. On va passer à la deuxième rubrique de cette émission. Donc je vais continuer. En fait, on est pas mal dans la planétologie là en ce moment. Donc, avec toi Pierrick qui nous parlait de Jupiter. Moi, je vous parle un peu de formation des planètes. Donc c'est vrai que là, en cette fin d'année, c'est un thème qui nous fait plaisir. Alors moi, j'avais commencé à raconter, en fait, j'avais dit, ben, pour parler des planètes et de comment elles se forment, en fait, il faut d'abord regarder comment se forme une étoile. Donc je vous renvoie à l'épisode 27, mais je vais quand même en faire un bref résumé ici. Les planètes, elles tournent toujours autour d'une étoile, hein. On rappelle on rappelle quand même les ordres de taille. La Terre a un rayon de 6500 km. Alors que le Soleil en a un de 750 000. Donc, grosso modo, là, on peut mettre 1 million de fois la Terre en volume dans le Soleil, à peu près.
100 fois dans le diamètre, 109 fois, je crois, dans le
c'est
diamètre.
Ça, c'est 100 ça, fois ouais. Dans un rayon, donc, ouais. Voilà, 100 fois 100 fois, fois 100, ouais. Ça fait 1 million ouais. En volume, ouais. À peu près. Donc ça, ça vous donne quand même Jupiter, qui est la plus grosse planète du système solaire, et elle est encore beaucoup, beaucoup plus petite qu'une étoile, quoi. Donc les étoiles sont ces énormes boules de gaz et les planètes sont toujours autour. Autour, dans un disque situé autour de l'étoile, pas n'importe comment. Et donc, ce schéma-là, il est dû au fait qu'en fait, tout ça eh bien, naît en même temps. Donc, on était parti des grands nuages de gaz du milieu interstellaire qui dérivent dans l'espace. Alors ça, on en observe. Ces grands nuages de gaz, ils viennent d'où ? Ils viennent beaucoup du Big Bang, en fait. Donc, c'est beaucoup de l'hydrogène, un peu d'hélium. Mais ensuite, ils viennent aussi de tout ce que les générations précédentes d'étoiles ont fabriqué comme éléments chimiques et ont expulsé dans le milieu interstellaire. Et de là vont se former d'autres étoiles. Donc, on peut prendre le cas du Soleil. Ces énormes nuages de gaz se mettent à un moment ou à un autre à s'effondrer sur eux-mêmes et à tourner de plus en plus vite sur eux-mêmes. Ce faisant, leur centre, sous l'effet de la gravitation et de la pression aussi qui augmente énormément, en fait, vont s'allumer les réactions de fusion thermonucléaire. Qui est la source d'énergie des étoiles et qui est la source d'énergie primordiale de tout l'univers, en fait. De là, cette énergie va rayonner et va se créer un équilibre entre cette masse de gaz qui s'effondre sur elle-même tout en tournant sur elle-même et ce rayonnement qui, à l'inverse, a tendance à faire, on va dire, exploser l'étoile. Et il y a un équilibre qui va se trouver et l'étoile va rayonner de façon stable. Tout en tournant toujours sur elle-même. Et donc, autour d'elle, il y a un disque d'accrétion qui se forme avec les restes, en fait, de gaz ben, qui sont pris dans le processus, mais qui ne sont pas, pris dans, on va dire, le corps de l'étoile elle-même. Et ces résidus vont mettre à orbiter et à former un disque autour de l'étoile. Okay.
Alors, pourquoi un disque et pas un nuage ?
Là, c'est vraiment un effet gravitationnel et du fait que ça tourne sur soi-même. Quoi.
Un peu centrifuge.
Ouais, il y a une force centrifuge qui va faire que le disque va s'écraser. Quoi. C'est ça l'idée. Et on observe toujours dans les systèmes planétaires des orbites comme ça autour de disques. Quoi. Donc, c'est ça ce qu'on observe. Donc, du coup, on cherche à créer des modèles qui permettent d'expliquer ce qu'on observe. Donc, ce modèle du disque d'accrétion, en fait, il vient de là. Il vient d'essayer de trouver une justification scientifique au fait qu'on observe que toutes les planètes tournent toujours dans le même sens,
ouais.
Autour des étoiles. Et,
ils sont à peu près alignés.
Et à peu près alignés dans un disque, quoi. Ouais.
D'ailleurs, on en observait un disque d'accrétion, un disque de poussière autour de Alcor, dans la Grande Ourse.
On en observe autour de pas mal d'étoiles. Oui. Ça fait une quinzaine d'années là, que quand même, la planétologie, ça a plutôt le vent en poupe. Mmh. Et ce n'est pas du tout prêt de s'arrêter. D'autant plus qu'il y a quand même des histoires de retourner sur la Lune, des histoires de quand même on aimerait bien aller sur Mars. Enfin voilà, que l'étude des planètes et de ce qu'on peut y faire, au-delà des questions de est-ce qu'il y a de la vie ou etc., qui sont déjà sont intéressantes, ça nous intéresse pour en fait pour explorer notre propre système solaire, quoi. Donc des disques d'accrétion, on en observe plein, et en fait il y a plein de modèles qui sont faits pour essayer de rendre compte de ces observations, parce que la statistique aidant, vu que maintenant on a quand même documenté des milliers d'exoplanètes, quoi, on observe des systèmes planétaires dans différents états, d'avancement dans leur formation. Donc on peut très bien observer une étoile qui a juste un disque de poussière, comme on peut observer aussi des systèmes planétaires formés. Alors on n'en est pas encore à détecter des systèmes planétaires si facilement. On arrive à détecter surtout des grosses planètes, des grosses exoplanètes, donc de planètes qui tournent autour d'étoiles plus lointaines que le Soleil. Mais de là à avoir l'équivalent d'une cartographie d'un système planétaire comme on peut l'avoir dans le système solaire, on n'en est pas là, quoi.
À ce sujet, il y a le James Webb télescope qui permettra d'être encore plus précis dans ce genre de recherche d'exoplanètes.
Ouais. Il y a différentes méthodes pour détecter les exoplanètes, mais je pense que je consacrerai une émission à part entière sur le sujet. Parce que voilà, c'est quand même intéressant et ça prend du temps pour expliquer un peu. Donc là, on en est sur ces disques qu'on observe. Et donc, comme je disais, on crée des modèles pour essayer d'expliquer comment on arrive à tout ce bestiaire là qu'on observe en fait. Donc ce modèle du disque planétaire, c'est celui qui est le plus couramment accepté. D'ailleurs, en toute honnêteté, j'en connais pas d'autres. Je crois pas qu'il y ait réellement de modèle alternatif en fait à celui-là.
Ça me dit rien.
Donc une fois qu'on en est au disque, là pour l'instant on est juste sur de la poussière, enfin de la matière, du gaz qui orbite comme ça autour de l'étoile, mais on n'en est pas encore aux planètes. Et là en fait il y a là aussi on a construit des modèles, et là l'idée ce serait en fait que ces particules de matière vont au cours de leur rotation vont s'entrechoquer, et qu'en fait ces chocs vont selon comment ils vont se produire, selon la violence, selon l'angle, selon un peu la nature chimique aussi des composants, on va avoir quelque chose de soit un choc en fait destructif, c'est-à-dire que les deux particules de matière elles se repoussent en fait et elles repartent dans l'espace, soit au contraire qui vont s'amalgamer. Et l'idée, c'est que là aussi, il y a un effet un peu statistique. Et puis, s'il y en a deux, trois qui commencent à s'amalgamer, à ce moment-là, la gravité va commencer à rentrer en ligne de compte. Et ça va devenir quelque chose qui va attirer un peu plus. Et donc, un effet boule de neige. Donc, ça met un peu de temps à démarrer. Mais une fois qu'il y a des embryons, en fait, un petit peu, qui sont des petits agglomérats, ce qu'on va appeler des planétésimaux, des sortes de des bouts de planètes en formation. Une fois qu'il y en a, ceux-là, ils vont commencer à amalgamer autour d'eux de plus en plus de matière. Et ce faisant, on va finir par former des boules de matière. Boules, parce qu'on est dans l'espace, qu'il n'y a pas de direction privilégiée, que donc, voilà. Et qu'on est aussi sur quelque chose d'assez fluide. C'est-à-dire qu'on est encore dans des températures qui sont très chaudes dans un système planétaire jeune. On a quand même cette idée qu'au départ, les planètes, elles n'étaient pas vraiment solides. Elles étaient, on va dire, comme de la lave ou une espèce de magma, enfin quelque chose de pas solide, ouais, de fluide encore, quoi. Un fluide de roche très chaude. Donc en fait l'idée c'est ça, et donc petit à petit les planétésimaux vont grossir, et ça va aussi donc nettoyer, on va dire, les orbites, nettoyer le milieu interplanétaire, et toute cette poussière là qui n'a pas été prise dans la formation de l'étoile va s'amalgamer pour former les planètes autour. Grosso modo, c'est ça le modèle, que c'est ça la vision qu'ont les astrophysiciens aujourd'hui de la façon dont les planètes se forment.
Et pourquoi ça crée une boule et pas du coup un disque comme le disque d'accrétion démarrage?
Là, on n'est pas sur la même échelle. C'est-à-dire, on est d'un côté, on est à l'échelle du système lui-même. on a cette espèce d'énorme nuage de gaz qui tourne. Là, on est sur c'est quelque chose de beaucoup plus petit, où, en fait, à l'endroit où se forme la planète, il n'y a pas de différence de gravitation ou de quoi que ce soit, quelle que soit la direction vers laquelle on aille, en fait. Toutes les directions sont, on va dire, c'est homogène.
D'accord.
Il n'y a pas de direction privilégiée, bon, hormis vers le Soleil, effectivement, mais ça va attirer l'ensemble, quoi. C'est... Le truc aussi, c'est qu'une fois que les corps sont suffisamment gros, ils deviennent sphériques, voilà. En fait. Parce que ce qu'on voit, c'est que, par exemple, les astéroïdes ont des formes complètement bizarres. Oui. Les astéroïdes, ils ne sont pas du tout sphériques. Ils ont plein de formes, mais parce qu'ils sont petits, en fait. Et à partir du moment où un corps devient suffisamment gros, en fait, sous sa propre gravité...
Ouais, suffisamment lourd, surtout. Ouais.
Suffisamment massif, sous sa propre gravité, il devient sphérique, en fait. Mais pour ça, il faut qu'il soit déjà légèrement fluide, comme c'est le cas en fait des planètes au départ, et surtout suffisamment massif, quoi, pour atteindre le statut de planète, qui est quand même autre chose que celui d'astéroïde. Un astéroïde, ça va faire quelques kilomètres en taille. Même si ça fait 10 ou 100 kilomètres, c'est déjà beaucoup. Mmh. Une planète, on est sur de l'ordre du millier de kilomètres quand même de rayon. Donc là, la gravité joue son rôle et on obtient des corps plus ou moins sphériques, quoi.
Ouais, il y a vraiment un moment charnière dans la taille et dans la masse où à partir de là, on n'observe plus de choses difformes. Et en dessous de ça, on n'observe pas encore des choses sphériques.
C'est ça. Et donc, on a ces planètes. Et ces planètes, en fait, petit à petit, ce qu'elles vont faire, c'est aussi qu'elles vont commencer à se refroidir. C'est-à-dire que si on imagine la Terre au moment de sa genèse ou peu après, on imagine quelque chose de très très tectonique, de très avec énormément aussi de volcanisme. Parce qu'il y a aussi, et là il y a des, au début de la formation de la planète, il y a différents phénomènes qui vont rentrer en jeu. Alors je parlerai la prochaine fois des atmosphères, parce que je trouve que c'est un sujet à part entière qui est quand même assez intéressant, parce que ne serait-ce que par rapport aux humains, nous on vit dans une bande de 100 km d'épaisseur, qu'on appelle l'atmosphère, mais en fait c'est une très fine couche de la planète, quoi, par rapport à la planète, qui est beaucoup plus grosse que ça. Mais hormis ces questions d'atmosphère, il y a quand même l'idée que la croûte des... Alors là, je parle des planètes telluriques. La croûte des planètes telluriques va commencer à se former, à se solidifier, à mesure que la planète va refroidir. Parce qu'en fait, elle va refroidir... elle perd de l'énergie, en fait. À partir du moment où, où le processus de formation de l'étoile il s'arrête, on a quelque chose de stable qui se met à rayonner et les planètes qui sont plus éloignées de l'étoile, elles ne reçoivent plus autant d'énergie que tout ce maelstrom qu'il y a pu y avoir au début. Donc, en fait, elles perdent de la chaleur dans l'espace. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que si on fait le calcul, on regarde la Terre... de quoi elle est composée, on imagine une température initiale du système solaire, et au final, on a un truc que maintenant, la Terre, elle devrait être toute froide, ça devrait être un caillou tout froid. Or, ce n'est pas le cas. Et en fait, il y a quand même tout un tas de processus de radioactivité naturelle qui sont super importants en fait, dans l'équilibre des planètes, où en fait, à l'intérieur de cette matière primordiale du système solaire, il y avait déjà des éléments lourds, type l'uranium, type d'autres choses, et des éléments qui sont naturellement radioactifs et qui sont emprisonnés en fait, dans le cœur de la Terre et qui en fait la réchauffent. Et en fait, l'équilibre aussi de la vie sur Terre, il est aussi dû à cette radioactivité. Sinon, on aurait un monde beaucoup plus froid. Voilà. Et donc ensuite, petit à petit, une fois qu'on est là, la planète va suivre son évolution jusqu'à former des continents, Parce que la tectonique, on observe quand même que c'est quelque chose qu'il y a sur quasiment toutes les planètes. Alors, il y en a qui n'en ont peut-être plus. Où on observe des traces d'un tectonisme qui a été actif à une époque. Donc y a quand même ce truc que ces boules là solides qui se forment dans l'espace, elles aussi, elles ont une vie. Quoi. Elles ont une vie à partir du moment où elles sont formées, elles vont évoluer jusqu'à disparaître. Alors, enfin, jusqu'à disparaître, au pire, ben, au moment où, où leur étoile explosera, ça, ce sera de toute façon la fin de l'histoire. Mais en tout cas, évoluer jusqu'à arriver à ce qu'on observe maintenant. Voilà. Alors, je vais terminer en parlant, en mentionnant la ceinture d'astéroïdes. On en a déjà parlé. Une fois passées les planètes telluriques, c'est-à-dire Mercure, Vénus, Jupiter, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, pardon. Derrière ça, on a ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Donc, elle aussi fait partie du disque. Hein. Elle n'est pas tout autour du Soleil. Donc là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un vestige justement de cette époque de formation ou pour une raison ou pour une autre, le processus d'accrétion des planétésimaux ne s'est pas déroulé et en fait, ces astéroïdes sont restés comme ça? Est-ce que c'est le vestige d'une planète qui s'est formée et qui aurait été détruite, par exemple par un gros impact qui aurait pu la détruire et que du coup ce qu'on observe c'est les débris de cette planète qui aurait fini par tourner sur toute l'orbite.
Tu crois qu'une collision peut dégommer une planète en faire plein de petits bouts comme ça?
Ouais, pourquoi pas, je sais pas.
Parce qu'il y a Cérès aussi dans la qui est une planète naine.
C'est les planètes naines dans la ceinture d'astéroïdes. Ouais. On en a là, on en a aussi derrière dans la ceinture de Kuiper au fond du système solaire.
Des embryons de planètes, quoi.
Des mini-planètes. Mais elles sont quand même sphériques.
Ouais.
Et ça, je pense qu'on en observe de plus en plus. On réalise aussi que, oui, il y a les planètes, on va dire, un peu officielles, et il y a aussi des mini-mondes un peu partout, et qui, eux, sont, pour le coup, vraiment difficiles à détecter, quoi. Parce que petits.
Ouais.
Mais on en observe de plus en plus dans notre système solaire, ouais. Donc ça laisse supposer qu'il y en a aussi ailleurs. Voilà, donc la ceinture d'astéroïdes, oui, moi, je sais pas. Personne n'a la réponse, de réponse définitive sur le sujet. Mais en tout cas, on l'observe, cette ceinture, ça, c'est sûr.
Moi, j'ai une question aussi, que pareil, hein, peut-être que tu n'as pas la réponse, peut-être que ceux qui travaillent dessus n'ont pas la réponse, ou tu pourras dire que tu répondras la semaine prochaine, et ça fera la transition avec Pierrick, les lunes. Du coup, les lunes des planètes, est-ce qu'elles se créent en même temps? Alors, je sais que la nôtre, elle est assez particulière dans le paysage de ce qu'on observe, et qu'a priori, elle a le même âge que la Terre, mais je pense aux lunes de Jupiter dont on va parler après.
Je ne sais pas.
Est-ce qu'elles se sont créées en même temps que les planètes ou après?
Sur les planètes, sur les satellites, il y a aussi quand même, là on arrive sur des tailles en fait qui peuvent être quand même aussi plus faibles.
Oui.
Et on peut se poser la question de savoir si ce n'est pas non plus des gros astéroïdes ou des corps qui sont captés à un moment donné le champ gravitationnel et qui après par des effets de marée se mettent à prendre des formes aussi un peu plus sphériques. Là, je pense qu'il faut y regarder au cas par cas, quoi.
Ouais,
et puis, il n'y a pas eu des mouvements de planètes?
Alors, il y a aussi ce qu'on appelle des migrations de planètes. Il semblerait qu'on observe des phénomènes comme ça, où des planètes
changent d'orbite.
Vont venir se rapprocher ou s'éloigner du Soleil au cours de du développement du système.
Au début du développement du système.
Ouais.
C'est peu probable que ça arrive maintenant, que d'un coup on se retrouve derrière Saturne.
Mais ça,
ça prend du temps, quoi.
Oui. Ça, là aussi, c'est des trucs qui sont assez peu documentés.
Oui, qui sont encore en recherche, quoi.
Ouais. Il y avait une chose aussi à laquelle je pensais. Oui, voilà, c'est par rapport au fait que à la formation de la Lune, on l'a déjà évoqué, mais c'est bien d'en reparler, je trouve. On a quand même cette idée qu'à une époque où la Terre était jeune, il y aurait eu une grosse collision avec un gros astéroïde qui aurait emporté une partie superficielle de la Terre pour former la Lune. Il aurait éjecté une partie quand même conséquente. La Lune, c'est 1700 km de rayon, il me semble. Donc c'est un quart de la Terre. Donc c'est quand même pas rien, quoi. Donc, pour répondre à ta question, Pierrick, oui, il y a quand même des collisions qui peuvent quand même être assez violentes. Jusqu'à détacher un morceau de Terre qui est suffisamment gros pour faire la Lune. Après, et on observe quand même un corps sphérique derrière.
Ouais.
Donc, il y a aussi cette idée que quand les planètes sont encore jeunes, eh ben, y a un effet de sédimentation en fait, des matériaux lourds qui vont avoir tendance à aller vers le centre de la planète, à migrer à travers cette espèce de magma. Et ce qui expliquerait pourquoi, sur la Lune, il n'y aurait que des matériaux un peu légers, parce que ça se serait passé à une époque où la Terre aurait déjà commencé à se différencier et donc n'aurait été éjectée qu'une partie périphérique qui contenait plus déjà de matériaux lourds. Et donc, tous ces matériaux lourds, eh ben, y a quoi dedans ? Il y a quand même les métaux. Hein. On dit que le cœur de la Terre, c'est du nickel et du fer, principalement. Mais il y a aussi tous ces corps radioactifs dont je parlais et qui viennent alimenter en énergie interne en fait, la planète pendant ensuite des millions d'années. Quoi.
Très bien. Voilà. Merci, Fred.
Eh ben, on va s'arrêter là pour... je vais m'arrêter là pour cette semaine. On va faire une petite pause musicale avant de te retrouver, Pierrick. Cette semaine, on va écouter un petit Metallica avec le morceau Orion. On vous retrouve juste après. et bon retour dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDVoix. On va donc attaquer la dernière partie de cette émission, très axée sur la planétologie et sur les petits mondes qui nous entourent dans le système solaire et ailleurs. Et donc Pierrick, tu vas continuer à nous parler de Jupiter.
Oui, je vais continuer notre exploration de cette partie-là du système solaire. Donc Jupiter, grosse planète gazeuse, hein, donc j'en ai parlé dans la dernière émission, qui je la resitue un peu, elle est à quelques 800 millions de kilomètres du Soleil, sachant que la Terre, par exemple, est à 150 millions de kilomètres du Soleil. Donc elle est loin, elle est très loin. Par exemple, pour aller sur Mars, il faut 6 mois avec une sonde spatiale. Et pour aller sur Jupiter, il faut plusieurs années, 5-6 ans. Je ne sais pas exactement, mais c'est, voilà, pour vous donner une idée, c'est vraiment loin. Donc, cette planète est très grosse, Jupiter. C'est un petit embryon d'étoile. Elle aurait pu être une étoile, mais elle n'a pas été. Elle est trop petite. Mais elle est quand même énorme. Pour vous donner une idée, j'ai déjà dit dans la dernière émission, mais je le répète parce que c'est quand même important, c'est que dans notre système solaire, le Soleil contient 99,8% de la masse de tout le système solaire, Jupiter 0,1%, et le 0,1% restant, c'est tout le reste, c'est toutes les autres planètes. C'est pas grand chose, mais quand même, c'est gros comparé au Soleil. Voilà. Donc Jupiter, j'ai parlé des satellites pour ce coup-ci. Donc elle a 80 satellites, 79 ou 80, ça dépend des. Donc c'est beaucoup hein, quand même. C'est celle qu'on a le plus. Et je vais surtout parler des satellites galiléens que notre ami Galilée a découvert à l'époque. Enfin, a découvert. En tout cas, c'est lui qui les a fait connaître. Donc, c'est Io, Europe, Ganymède et Callisto. C'est quatre satellites qu'on peut observer facilement avec un télescope. Ou même, j'ai appris que peut-être à l'œil nu, on pouvait voir Ganymède dans des très très bonnes conditions. Ouais. Mais alors ça,
jamais vu.
Jamais des doutes. Mais en tout cas, aux jumelles.
Il y a sûrement beaucoup
de gens qui nous écoutent, qui n'ont pas de télescope, mais qui ont des jumelles. Aux jumelles, on voit très bien les satellites. Ouais.
Donc voilà, donc ces quatre satellites-là. Donc, et en fait, c'est Io, Europe, Ganymède, Callisto dans l'ordre de distance par rapport à Jupiter. Elles sont placées comme ça, mais il y en a en fait. Io commence à la cinquième place. En fait, il y a quatre autres satellites avant elle, qui sont plus petits, hein, appelle le groupe Amalthée, avec Métis, Adrastée, Amalthée et Thébée. Donc, ils ont continué dans les noms antiques de la Grèce antique. Donc, c'est tous les satellites, c'est que des épouses de Zeus.
Oui, oui puisque Jupiter, c'est Zeus. Ouais.
Voilà, Jupiter, c'est Zeus, et c'est toutes ces femmes qui tournent autour. voilà, il y a aussi Jupiter, elle a aussi des anneaux. Des anneaux, pas comme Saturne, mais dans l'idée, c'est ça. Qui sont beaucoup plus ténus, beaucoup plus fins, mais aussi elle a quand même des anneaux. C'est Voyager qui a découvert ça à son passage.
Et ça, essayez pas de les observer, ça pourrait pas.
Ouais, c'est impossible. La sonde Voyager s'en est rendu compte parce que quand elle est passée derrière Jupiter, elle a tourné sa caméra, elle a pris une photo de Jupiter et il y a le Soleil derrière Jupiter, et on a vu qu'il y avait un anneau autour éclairé. Et donc on s'est dit, tiens, qu'est-ce que c'est? C'est des anneaux de Jupiter qui seraient éventuellement dus à des collisions d'astéroïdes sur les satellites galiléens que je viens de nommer, qui auraient éjecté dans l'espace beaucoup de poussière et qui auraient créé cet anneau.
C'est un petit peu ce qu'on vient de raconter par rapport aux étoiles, mais transposé à l'échelle d'une planète et à son petit système autour, en fait.
Oui, oui. Ouais.
Juste, si je peux dire, les satellites galiléens, donc, comme on les appelle, les quatre plus gros, c'est en observant ces satellites que Galilée a eu l'idée de remettre en cause l'héliocentrisme. C'est quand même pas rien.
Mais il s'est rendu compte, ouais, que les satellites, et clairement, ils tournaient autour de Jupiter.
Donc, c'est là qu'il s'est dit, tout ne tourne pas autour de nous. Soleil, donc, et du Soleil, oui, voilà.
Enfin, de la Terre, et donc voilà.
Ouais. Oui, parce que quand on les observe, on l'observe une nuit, bon, ok, ils sont à des endroits, on l'observe la nuit d'après, ils ont changé de place.
Ouais, c'est ça.
Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, ils tournent autour. Voilà, donc je vais faire des focus sur les satellites galiléens essentiellement, hein, parce que c'est les plus gros. C'est les plus gros, ils sont un peu moins gros que la Lune, et sauf Ganymède, qui est quand même plus gros que la Lune.
Qui est plus gros que Mercure, même.
Qui est plus gros que Mercure, ouais. Ouais, ouais. Donc c'est quand même des,
c'est pas rien, ouais.
Des beaux bébés.
Ouais.
Et donc Io. Io, c'est très particulier. Il y a des images d'Io qui sont accessibles. C'est une planète, une lune qui est pleine de couleurs, jaune, verte, orange. C'est très particulier, elle est très colorée. Dessus, il y a beaucoup de volcans et une forte activité géologique très dense. On dit qu'il y a 400 volcans qui seraient dus à un très fort effet de marée. Jupiter étant assez proche de Io, elle attire Io vers elle et déforme ce satellite de manière très conséquente. C'est des marées, donc c'est des marées sur... je parle de marées terrestres, hein, qui font bouger la Terre, quoi. Qui sont très fortes et qui peuvent varier de 100 mètres. C'est-à-dire que Io, quand elle tourne autour de Jupiter, elle peut s'arrondir et s'aplatir très fortement. Et ce phénomène de marée, qui est dû à Jupiter, déforme et fait de la friction, fait du frottement et crée de la chaleur. Et donc cette chaleur crée beaucoup de volcans et d'activités géologiques. Du coup, on observe quand les sondes sont passées, donc Voyager, avant il y a eu les sondes Pioneer, et puis plus dernièrement il y a eu la sonde Galileo. Et on observe des grands panaches de magma qui sont éjectés dans l'univers, parce que les volcans sont énormes, et qui retombent un peu en parapluie, qui retombent sur la planète en parapluie. Comme il y a peu d'atmosphère, c'est quand même des petites planètes, tout ce qui est un peu éjecté part très haut dans l'espace et puis retombe en espèce de parapluie. Il y a des belles images sur Internet, voilà, je vous invite à regarder. Et elle a une petite atmosphère quand même, parce qu'à force d'avoir une activité géologique, elle en éjecte tellement autour d'elle qu'elle crée une atmosphère très ténue. Hein. C'est pas du tout comme chez nous, mais il se passe quand même un petit truc atmosphérique. Donc voilà pour Io. Après, je vais passer à Europe. Donc Europe, elle est un peu plus petite que la Lune, à peu près de 10%. Elle a beaucoup de... Elle est lisse, extrêmement lisse, blanche. Avec beaucoup de stries, beaucoup de traits, des grandes balafres, des grands traits comme des griffures qui sont à sa surface. Et donc là, on observe que c'est de la glace, en fait. Que c'est une énorme croûte de glace et qu'en dessous, il y aurait un océan, donc subglaciaire. En dessous de ça, il y aurait un énorme océan parce que il se passe le même effet de marée que sur Io. Sauf que sur Europe, il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau. Et que cet océan qui est liquide, qui est sous la glace et sous pression, puisque comme il y a l'effet de marée, il y a l'effet de friction et ça réchauffe, du coup l'eau chauffe. Et il faut bien qu'elle sorte, hein, comme dans une cocotte minute. Et du coup, elle perce la glace et on observe des geysers, carrément, des énormes geysers qui partent dans l'espace. Et du coup, on suppose qu'il y a de l'eau en dessous. Donc ça, c'est difficile à confirmer, mais on pense que c'est ça. Le consensus, a priori, c'est ça. Et donc on observe aussi sur ce satellite, sur Europe, il y a aussi beaucoup de parties rouges. Et on pense que c'est dû à la fonte des glaces, que par endroits elles fondent un petit peu, et que c'est en fondant, il n'y a que le sel qui reste. Donc ça aussi, c'est des traces qu'il y ait de l'eau liquide en dessous et qui laisse ce sel apparent en surface. Et donc on suppose que dans ces océans, enfin on suppose, on n'en sait rien, mais c'est des théories, comme il fait chaud et qu'il y a de l'eau salée dans cet océan, sur Terre, on a déjà observé dans des sites sous-marins très très profonds qu'il peut y avoir de la vie sans photosynthèse. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de la vie qui se développe. On a découvert des petites formes de vie qui se développent sans photosynthèse au fond des océans terrestres. Donc peut-être, peut-être éventuellement que au fond des océans d'Europe, c'est possible qu'il y ait un peu de vie.
En tout cas, on se dit que ça vaut le coup d'essayer d'aller voir,
voilà,
même si c'est compliqué.
C'est en tout cas dans le système solaire l'un des endroits le plus probable où il pourrait y avoir de la vie. Voilà. Donc après, je passe à Ganymède. Donc Ganymède est plus gros que la Lune, plus que Mercure, donc comme tu disais. Et donc c'est un peu la même chose que Europe, sauf qu'elle est un peu plus loin que Jupiter, donc l'effet de marée est là, mais un peu moins fort. Mais comme elle est plus grosse, elle possède un petit champ magnétique qui la protège un peu de Jupiter. Et donc, il y a eu pas mal de, notamment SpaceX ou la NASA, qui, si jamais l'humain devait essayer d'aller par là-bas, ça serait sur Ganymède, parce que l'habitabilité de ce satellite serait le plus propice pour l'être humain, parce que la gravité est un peu comme sur celle de la Lune, donc on sait à quoi s'attendre. Et qu'il y a un peu de gravité, du coup on serait pas complètement on perdrait pas tous nos muscles, et que comme il y a un petit champ magnétique, ça nous protège des éruptions solaires, des rayons cosmiques qui sont dangereux pour l'humain. Et comme il y a de l'eau, et ben avec de l'eau on peut faire plein de choses, hein, de l'énergie à boire, du carburant en théorie, hein.
du thé
donc voilà, ça serait là-bas qu'on irait un jour peut-être. Si je continue, donc on passe à Callisto. Donc Callisto, c'est une structure plus vieille, beaucoup moins active, parce que beaucoup plus loin de Jupiter, et qui aurait aussi un océan subglaciaire, mais là c'est, il n'y a pas vraiment de traces. On pense qu'il y a de la glace autour, puis un océan dessous, mais on n'observe pas grand-chose. Il n'y a pas d'effet de friction, du coup. Du coup, s'il y a un océan, il ne sort pas. C'est beaucoup plus stable. Il n'y a pas de geyser. Ouais, okay. On observe moins de choses sur cette planète, sur ce satellite. Et voilà, donc si je continue un peu mon petit tour de ce qui tourne autour de Jupiter, il y a aussi tout ce qu'on appelle des Troyens. Donc on entend souvent parler de ça, des Troyens de Jupiter. En fait, des Troyens, c'est tout ce qui a une orbite héliocentrique, mais qui est en résonance avec une planète. Il peut y avoir des Troyens de la Terre, je crois qu'il y en a un, j'ai vu qu'il y en avait un. Il peut y avoir des Troyens de Mars, c'est-à-dire que c'est des petits astéroïdes qui font le tour du Soleil et qui passent proche de la Terre ou d'une autre planète et qui repartent comme ça. On dit qu'ils sont en résonance avec donc la Terre ou d'autres planètes, et notamment Jupiter en a plus de 9000, donc il y en a beaucoup.
C'est eux qui se mettent sur les points de Lagrange,
c'est ça ouais. C'est ceux qui se mettent sur les points de Lagrange, donc
des points d'équilibre gravitationnel entre la gravité du Soleil et la gravité de la planète, en l'occurrence Jupiter ici.
Ouais, des points plutôt stables, donc qui sont là, et donc il y a une sonde qui s'appelle Lucie, en hommage à la Lucie, l'Australopithèque qu'on a trouvé, l'un des plus vieux squelettes humains qu'on ait trouvé sur Terre. Ils ont appelé la sonde comme ça parce qu'ils pensent qu'en allant explorer ces Troyens, on allait remonter au tout début du système, de la formation du système solaire, et qu'on allait obtenir des informations sur cette période qu'on connaît mal. Et que donc ces Troyens seraient des fossiles du système solaire, des astéroïdes qui ont très peu évolué depuis le début, quoi. Okay. Voilà.
Elle sera au niveau de ces Troyens en 2027.
Oui, c'est ça. Commence l'exploration. Elle est partie en octobre 2021 et l'exploration des Troyens va entre 2027 et 2033. Mmh. Et elle va aller explorer. Il y a deux points de Lagrange qui sont un peu à l'opposé, en fait, où il y a des Troyens. Il y a deux amas de Troyens, on va dire. Et elle va aller commencer par une partie et après elle va refaire un tour de terre pour repartir voir une autre partie. Donc voilà, elle est partie en 2021, elle arrive en 2027, donc ouais, 6 ans. Plus après, elle va faire un aller-retour, donc voilà. C'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, c'est parti. Voilà, il y a une chose aussi qui est intéressante dans ces 4 satellites, c'est qu'ils sont en résonance orbitale. Alors, quand résonance orbitale, c'est-à-dire que quand Ganymède fait 4 tours autour de Jupiter, Io en fait 1 et Europe en fait 2. Donc ils sont en 4-2-1. Voilà, quand Io fait un tour, Europe en fait 2, Ganymède en fait 4. Voilà, donc c'est des orbites très stables qui sont là depuis un moment et qui. Et tout ce petit monde en fait interagit l'un avec l'autre. Et c'est pour ça qu'on a des activités fortes au niveau volcanique, et etc.
J'ai une question, une interrogation. Pourtant, normalement, plus tu es près de la planète, plus tu orbites vite. Et là, tu nous dis que Io, qui est la plus proche, fait un tour. Pendant qu'elle fait un tour, Ganymède en fait 4.
Oui, si je ne me suis pas trompé, oui, c'est ça.
Ok, je te crois. Enfin, je te crois, mais je vais aller vérifier quand même.
Je peux me tromper. En tout cas, ouais.
Normalement, les mécaniques orbitales, plus tu es proche, plus tu tournes vite, quoi.
Peut-être que je me trompe. Mais,
En tout cas, je sais qu'il y a un phénomène comme ça, enfin, la résonance orbitale. J'ai déjà vu ce terme, ouais. J'irai me renseigner. Mais, merci.
On vous dira à la prochaine émission.
Ouais. Oui, d'ailleurs, je fais un petit mea culpa sur ce que j'ai dit avant à propos de Galilée en observant ces 4 satellites. Il n'a pas remis en cause l'héliocentrisme, comme j'ai dit, mais le géocentrisme, bien sûr.
Oui.
Puisque l'héliocentrisme, a priori, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est la réalité. Qui avait été mis au point par Copernic.
Ouais, et du coup, ces satellites, c'est quand même les cibles, les prochaines cibles dans les 10 prochaines années, voire enfin, beaucoup plus, même 20 prochaines années. C'est vraiment là que l'exploration spatiale va se dérouler, parce que c'est à ces endroits qu'on a envie d'aller voir maintenant, d'aller explorer, d'aller voir ce qui se passe.
Il y aura quand même d'abord l'étape de Mars, je pense.
Oui, mais en parallèle, je veux dire, c'est
parallèle,
vraiment...
En parallèle, il va y avoir l'envoi de sondes.
Oui,
de sondes, bien sûr.
Autour du monde de Jupiter, ça, c'est sûr. Et Mars, c'est déjà... Il y a plein de monde, là.
Oui,
il y a plein de sondes sur Mars pour les 10 prochaines années qui sont déjà en orbite ou qui vont encore y aller.
Enfin, la priorité, c'est la recherche de vie pour tous les organismes.
Je ne sais pas. Je ne pense pas. Moi, je pense que la priorité des agences spatiales, ce n'est pas la recherche de vie. Je pense que c'est la recherche de. Je pense que c'est quand même la recherche de profit et d'exploitation en fait des ressources de l'espace. Je pense que c'est vers là quand même qu'ils sont plus motivés et que je suis pas sûr que les gros budgets qui soient libérés soient dans le but juste de trouver de la vie. Par contre, de s'approcher de conditions les plus favorables possibles à la vie. Enfin, ce qu'on appelle la vie, en fait, c'est la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Parce que c'est quand même
toujours. Oui.
Faut quand même ramener à ça, parce qu'au fond,
oui, on a avancé pas.
C'est toujours un peu le bout de la lorgnette par lequel on regarde le truc quand il s'agit de chercher de la vie ailleurs que sur Terre. Il y a quand même un gros prérequis qui est de dire on va quand même chercher un peu ce qui nous ressemble ou ce qu'on connaît, quoi.
Ce qu'on sait chercher.
Ouais. Ce qu'on sait chercher, voilà. Mais on a absolument aucune idée du fait que il peut pas y avoir d'autres formes de vie, même sur un truc comme la Lune, par exemple. Mmh. Même si on n'en a pas trouvé, même si voilà. En fait, on n'en a aucune idée. Quoi. Mais c'est juste ça. Moi, par rapport à la politique et à tout ça, je suis pas sûr qu'il y ait une vraie motivation de recherche de vie, en fait.
Si, quand même, parce qu'ils vont sur Mars, ils sont toujours en recherche de ça. C'est d'où on vient, quoi. C'est une question un peu plus philosophique. On est dans cette recherche et ces endroits sont les plus propices.
Ouais.
Ouais, je pense aussi, parce que recherche de profit...
C'est extrêmement dur à exploiter. Ouais, c'est ça, ça reste l'argent, c'est encore hyper précaire. Enfin, ça ne marche pas, c'est clair et net. Donc,
si on raisonne, oui, sur le moyen terme, non.
Peut-être les entreprises privées...
Peut-être un peu plus, oui.
Mais
je pense que sur une échelle de 50 ans...
Au final, c'est ça. Un peu d'espoir pour l'être humain, Fred.
On verra bien.
On fera le point dans l'étoile polaire numéro 550.
Ok, et ben, en tout cas, ben, merci Pierrick. On espère que ça vous aura intéressé, tous ces petits tours sur les mondes habitables, à défaut d'être habités.
Bah ouais, ça m'intéresse. J'ai envie de m'inscrire pour le Club Med sur Ganymède, non ? C'était sur Callisto ?
Ganymède.
Sur Ganymède. Ouais. Ouais.
Non, mais c'est vrai que c'est chouette de regarder tous ces corps, tous ces planètes, tous ces satellites. Il y a un côté un peu voyage, ouais. Un peu, on fait de la géographie, quoi. Et là, c'est comment ? Comme si c'était une carte postale ou comme si on pouvait...
Oui, on regarde les cartes, le relief, et ce qui se passe.
Mais c'est vrai que Yo, par exemple, il y a des images, c'est vrai que c'est frappant, quoi. C'est vraiment... Il y a ça donne une impression en fait d'intensité, de brutalité, d'un monde quand même assez inhospitalier et vraiment brassé d'une énorme énergie interne, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Et c'est beau.
Ouais.
Bon, on va en rester là pour cette semaine.
Mm-hmm. Pour cette année même.
Et pour cette année, ouais. Du coup, ben, on vous souhaite de bien profiter du ciel d'hiver et de bien profiter. De la fête de la lumière autour du solstice. Et on vous dit à la semaine prochaine.
Ciao.